Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, merci de nous accueillir à l'écoute de Radio France Internationale. La nuit dernière, la deuxième édition de la Nuit de la Solidarité était organisée par la ville de Paris. L'occasion de recenser tous ceux qui, faute de logement, passent leur nuit dehors. Ils sont des milliers, sans ressources, pour qui les fondements de la vie sont autant d'épreuves. Manger, dormir, assurer sa sécurité. Tous ces gens ont des profils variés, des histoires différentes, mais ils partagent la nécessité d'être aidés pour survivre. Alors comment se manifeste la solidarité à leur égard? Peut-on, veut-on faire davantage pour aider les gens dans le dénuement total? SDF, quelle solidarité? On va en parler ce soir avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Chloé Sermorin est chargée de projet à la Fédération européenne des associations nationales qui travaillent sur les personnes sans-abri. Elle est l'auteur du « Regard sur le mal-logement en Europe » publié chaque année en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre. Bonsoir à vous, Chloé Sermorin.
Bonsoir.
Édouard Gardella est lui sociologue chargé de recherche au CNRS et membre du conseil de l'ONPES, c'est l'Observatoire National de la Pauvreté et de l'Exclusion Sociale. Bonsoir Édouard Gardella.
Bonsoir.
Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors l'année dernière, on a compté un petit peu plus de 3000 personnes qui vivent et dorment dans la rue. Est-ce qu'on s'attend à un chiffre en hausse cette année, Chloé Sermorin?
Alors, peut-être qu'il faut déjà commencer par contextualiser un peu. Donc, ce décompte, c'est un décompte qui est fait dans la ville de Paris, donc organisé par la municipalité, avec des bénévoles qui se mobilisent, etc. Alors, donc moi, je travaille au niveau européen, surtout. Et on a... De toutes les données qui existent aujourd'hui en Europe, qui ne sont pas comparables parce qu'il n'y a pas de données comparables et un système généralisé en Europe de comptage, toutes les alarmes sont au rouge, c'est-à-dire que les évolutions sont particulièrement alarmantes. Donc je ne peux pas évidemment prédire les chiffres
personne
qui vont être trouvés.
On saura jeudi.
Absolument, on le saura mieux jeudi et ça sera très intéressant de voir les résultats. Ce qui est sûr, c'est que dans les autres pays qui mobilisent le même genre de système pour décompter les personnes en situation de rue et de privation de domicile, il y a des évolutions qui sont particulièrement alarmantes. En Angleterre, par exemple, le décompte national qui est fait chaque année dans les rues en Angleterre a décompté en 2018 4677 personnes sans abri à la rue. Et c'est une augmentation de 165% depuis 2010. Donc voilà.
On est en phase ascendante, on va dire, concernant le nombre de sans-abri qui vivent, qui dorment dans les rues des villes, on va dire, d'Europe en ce moment. Édouard, regardez là.
Oui, comme ça vient d'être dit, depuis... on va dire une vingtaine d'années, en fait. On a des évolutions à la hausse, alors de personnes sans abri, mais aussi des personnes sans domicile, mais aussi des personnes qui sont en dehors du logement. Donc en fait, pour analyser le phénomène, c'est vrai que c'est bien d'avoir une vision un peu globale. Donc il y a les personnes sans abri qui sont la partie extrême de ces situations d'exclusion. Mais effectivement, en fait, les voyants sont au rouge dans les différentes enquêtes depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années même. Et ça concerne en fait un public plus large qui est en dehors du logement de droit commun, en fait, comme on dit.
Est-ce que cette opération arrive à donner une image fiable, je dirais, de ce qu'est la communauté des SDF, si on peut prendre ce terme-là?
Oui, c'est un terme intéressant, mais fiable. Alors moi, je suis pas statisticien, hein, donc voilà. Mais tout est fait pour qu'il y ait effectivement une image la plus fidèle possible, avec une technique, enfin des techniques de comptage qui sont inspirées des États-Unis, en fait une division de l'espace. Je sais pas si vous avez vu, hein, comment c'est organisé, hein, avec voilà des quartiers qui sont attribués à différentes équipes avec des maraudeurs professionnels, et donc un territoire parisien qui est couvert. Il y a aussi les bois, bois de Boulogne, bois de Vincennes. Effectivement, l'idée en plus de compter en même temps sur un même territoire, bon, on a des chiffres qui peuvent être en tout cas plus fiable que d'autres techniques.
Hein. Ceci dit, il y en a qui passent à travers les mailles du filet, puisque le SDF qui est à côté de chez moi et avec qui j'ai discuté un petit peu ce matin m'a affirmé que personne n'est passé le voir cette nuit, alors que les maraudes, ils les voient quotidiennement. Donc,
absolument.
Il y a une fiabilité, mais...
Alors oui, et puis je pense qu'il y a des dynamiques qui sont intéressantes à prendre en compte. Je sais que pour une expérience d'un collègue qui a fait partie de l'année dernière, de l'expérience de l'année dernière, qui était parmi les bénévoles maraudeurs, il a eu des retours de personnes qui avaient été au courant de la tenue de la nuit de solidarité dans la presse, mais pas particulièrement par les services qui venaient les aider au quotidien. Oui. Donc c'est une première question. Je pense que voilà, peut-être aussi garder à l'esprit la mise en information des personnes principales concernées. Et ces personnes-là, en l'occurrence, étaient assez inquiètes de la manière dont ça allait se passer, parce que par rapport à leur statut administratif, c'était dans un contexte où le gouvernement français avait annoncé une circulaire qui annonçait essayer d'identifier les personnes en situation irrégulière sur le territoire français, pas dans les hébergements d'urgence, oui, entre autres. Donc c'était des personnes qui avaient délibérément aussi voulu se cacher des comptes. Donc je pense que c'est intéressant de garder ça à l'esprit.
Justement, on parle d'une présence accrue de réfugiés, Édouard Gardella, dans les rues des villes en France, par exemple, et vous nous direz tout à l'heure si c'est le cas dans le reste de l'Europe. C'est une réalité ?
Oui, alors... c'est compliqué parce qu'il n'y a pas effectivement de décompte très très clair. Ce qu'on peut voir, c'est les chiffres officiels du nombre de demandeurs d'asile qui sont donc acceptés au titre des politiques de l'asile de la France. Après, dans les statistiques qu'on a au niveau national, il y a une hausse de la proportion de personnes étrangères. Mais alors, évidemment, toutes les personnes étrangères ne sont pas demandeuses d'asile ou réfugiées.
Elles ne sont pas toutes dans la rue.
Et elles ne sont pas toutes dans la rue, elles sont sans domicile. D'accord. Donc, elles n'ont pas de logement. Oui. Donc, on voit quand même une tendance globale une augmentation de la part de personnes étrangères et donc en situation aussi précaire, administrative, donc sans papier, ou réfugiées, dans les situations d'exclusion du logement. Mmh. Ça, c'est une tendance qui est quand même assez forte.
Comment ce recensement, je dirais, peut... permet-il d'aider les SDF à sortir de leur condition ?
Je pense que c'est la question principale à poser, en fait. Pour moi, pour nos organisations, on représente vraiment les organisations de solidarité aux personnes sans-abri en Europe. Et je pense qu'un recensement n'a de sens que si on propose derrière des solutions en fonction des besoins qu'on identifie.
Est-ce que c'est le cas ?
À Paris, je pense qu'il y a eu, en tout cas sur la question, par exemple, des profils et sur la question de l'identification, par exemple, un profil de femme beaucoup plus important que ce qu'on pensait auparavant, il y a quand même eu des ouvertures d'hébergement d'urgence spécifiques pour les femmes avec les besoins qui vont avec. Je pense que c'est toujours important de revenir à la base de notre travail. Le gros problème aujourd'hui, c'est que pourquoi est-ce que on a des personnes à la rue? Pourquoi est-ce que les hébergements d'urgence sont saturés? Et peut-être qu'il faut aussi remettre tout ça en question. C'est ce qu'on essaye de faire, entre autres, dans le prochain rapport qu'on va sortir en mars, en essayant de mettre en avant le fait qu'il y a peut-être un système qui ne fonctionne plus du tout, et que peut-être que la solution, comme elle a été mise en place dans d'autres pays, en l'occurrence en Finlande par exemple, et qui commence à prendre énormément de place aussi dans d'autres pays, y compris en France, les expériences de logement d'abord, où on met le logement en tant que droit fondamental, et non pas comme une récompense à la fin d'un processus de réinsertion sociale.
Alors, est-ce que le sociologue a des réponses à apporter aux questions que vient de poser Chloé Serme-Morin ?
Des réponses, je ne sais pas. Non, effectivement, si on prend un point de vue historique, parce que c'est comme ça en fait qu'on peut analyser les choses au niveau des politiques de lutte contre l'exclusion du logement, il y a effectivement en fait des innovations qui sont faites par le monde associatif, qui se rend compte que l'accès au logement est extrêmement conditionné par plein de conditions économiques, statutaires, et que les personnes qui sont, elles, en dehors du logement et sans abri, en fait, ont de plus en plus de difficultés à accéder à un logement. Donc, effectivement, il y a, comme vous l'avez dit, l'expérimentation de logement d'abord, qu'en fait, pour expliquer un petit peu, c'est un changement par rapport aux politiques antérieures qui fonctionnaient comme un escalier. Souvent, on a la métaphore de l'escalier, c'est que la personne qui est sans abri doit passer par une première étape qui est l'hébergement d'urgence, de courte durée, pour ensuite accéder à un hébergement de réinsertion de plus longue durée, pour ensuite accéder à un logement. Et donc ce modèle-là a été identifié comme étant non efficace, inefficace, injuste, épuisant, parce que les personnes étaient bloquées en fait dans les hébergements sociaux et elles tournaient d'un hébergement à un autre. Et donc ça, c'est ce qui explique qu'il y a eu un changement de modèle de politique publique.
C'est quoi le logement d'abord ? Alors expliquez-nous ce que c'est le logement d'abord, Chloé Serme.
Bah, du coup, Edouard Gardella l'a très bien décrit au sens de changement de paradigme. L'idée étant vraiment de mettre le logement au début de l'escalier. Au lieu d'avoir cet escalier, de mettre l'accès au logement comme première entrée pour ensuite organiser l'accompagnement en fonction des besoins de la personne, autour de la personne.
C'est quelque chose qui se pratique réellement ?
Absolument. Il y a, en France, il y a eu déjà beaucoup d'expériences qui s'appelaient... Enfin, c'était le chapeau de ces expériences-là s'appelait un chez-soi d'abord. Maintenant, c'est devenu... le gouvernement a pris des engagements par rapport à cette politique avec une mise à l'échelle un peu plus importante. Bon, on pose la question des moyens de mise en œuvre et surtout de la mise à disposition de logements abordables, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Mais voilà, il y a eu des mises en œuvre aussi dans d'autres pays, et le pays qui est particulièrement intéressant...
La Finlande, dites-nous ce qui a été mis en œuvre en Finlande.
Je sais qu'on l'entend beaucoup, la Finlande, mais c'est quand même intéressant de savoir que c'est aussi des temps très longs, c'est important de le dire. La Finlande, ça fait... Donc dans les années 80, il y avait 20 000 environ personnes qui étaient sans domicile au sens large, non pas que sans abri, mais sans domicile.
Sur l'ensemble du pays.
Et ensuite, donc depuis la mise en œuvre en 2008 d'une politique nationale stratégique, donc c'est-à-dire qu'il y a eu une base légale, des stratégies très planifiées avec des lettres d'intention signées entre les autorités locales et le gouvernement, des choses qui étaient très pragmatiques en fait, avec des objectifs très définis, d'éradication du sans-abrisme au sens des personnes qui dorment à la rue. Donc l'objectif était zéro SDF à la rue, l'hébergement d'urgence étant réduit à son rôle qui devrait être de l'urgence, donc une transition de court terme pour les personnes qui n'ont pas de solution de logement, et et rediriger tout de suite vers une solution pérenne et de droit commun, de long terme des personnes. Et donc la transition est intéressante parce que les bailleurs sociaux se sont aussi mis autour de la table, des fonds ont été levés de beaucoup d'acteurs différents, et il y a eu une construction de logements sociaux, il y a eu une transformation des hébergements d'urgence en logements individuels, et aujourd'hui 52 places en hébergement d'urgence à Helsinki contre beaucoup plus de places en logements accompagnés et individuels.
Alors Edouard Gardella, pourquoi on n'arrive pas à mettre en place des politiques similaires en France selon vous ?
Bonne question. Il y a différentes réponses plus ou moins polémiques, la réponse plus polémique, c'est il y a une histoire en fait. Il y a une histoire du secteur qui s'est professionnalisé depuis 60 ans autour des hébergements sociaux. Et je pense que dans les politiques, il y a certains acteurs qui défendent aussi l'hébergement social en disant l'hébergement social a une importance pour accompagner les personnes, pour leur apprendre à habiter un logement de droit commun. Parce que, selon elle, selon ses professionnels, on n'habite pas un logement de droit commun comme ça, on s'endette facilement, on va avoir des comportements qui sont pas adaptés. Donc ça, c'est le discours des professionnels des hébergements sociaux. Et donc, selon eux, le passage par un hébergement collectif est en fait source d'apprentissage de compétences autonomes, à devenir autonomes. Donc, si on voulait cibler peut-être une des raisons les moins publiquement dites et les plus polémiques, je pense, au sein du secteur, c'est ça, c'est en fait la défense par certains acteurs professionnels du modèle ancien, en tout cas qui passe pour ancien aujourd'hui, à savoir l'hébergement social a été utile, elle est encore. Donc c'est aussi ça qu'il y a comme enjeu au sein des acteurs qui sont engagés dans la lutte contre l'exclusion.
Ça, c'est vous, l'acteur professionnel engagé dans la lutte contre l'exclusion.
Oui, absolument. Je pense qu'il y a du vrai. Je pense qu'il y a aussi une contextualisation plus large, au sens où je pense que c'est une vision. La capacité à habiter, c'est une vision qui est partagée par un très grand nombre de personnes, que ce soit du public, de politique. C'est-à-dire qu'on regarde aujourd'hui certaines citations, que ce soit de notre président de la République ou d'autres d'autres personnalités politiques en Europe, sur la la méritabilité des gens et la manière de se responsabiliser des pauvres, etc. Ça pose question sur, voilà, sur ce genre de choses. Mais je pense aussi qu'il y a certaines, pour en revenir au blocage par rapport au logement d'abord en France, je pense qu'il y a aussi vraiment des choses qui concernent le marché du logement. Quand on voit un choc, une volonté de mettre en place un choc d'offres, mais que de l'autre côté, il y a une baisse des APL et un matraquage, on peut le dire, des bailleurs sociaux, je pense que c'est aussi, on est sur des choses parfois un peu schizophréniques qui mettent le secteur dans des positions compliquées. Et entre autres, je pense que aussi, pour voir cette schizophrénie, on peut aussi voir dans certaines villes qui développent des architectures urbaines anti-SDF, des arrêtés anti-mendicité, anti-occupation de l'espace public. Quand on met ça en parallèle avec les très beaux engagements politiques, je pense que c'est important de garder ça à l'esprit.
Édouard Gardella.
Oui, je pensais à une autre raison aussi qui est effectivement qui renvoie à ce que vous avez dit sur la méritabilité, la méritocratie en fait, qui est au cœur de la politique d'accès au logement, d'insertion vers le logement. C'est en fait le statut aussi qu'a le chez-soi dans les sociétés où il y a une propriété privée, où en fait on accède à un chez-soi après en fait avoir eu un travail, payé un loyer, et donc il y a toutes ces structures-là socio-historiques finalement, qui est à mon avis présente aussi dans l'idée que on n'a pas un logement trop facilement, quoi. Ça se mérite.
D'accord. Alors, manifestement, il y a de l'attention, il y a des moyens au problème. Il n'y a pas véritablement de résultats probants, ou peut-être moins probants que ce que voudraient et les associations et les professionnels. Il y a cet engorgement du 115 que vous avez évoqué tout à l'heure, souvent inaccessible, souvent surpeuplé, des conditions d'hygiène parfois limites. Est-ce que tous ces reproches-là ont des raisons d'être? Vous pensez, on les entend de la part des SDF eux-mêmes.
Absolument. Je pense que aujourd'hui, une personne lambda n'a pas du tout. Enfin, on peut difficilement prendre conscience de ce que c'est qu'être hébergé dans un hébergement d'urgence. C'est-à-dire que c'est dans un hébergement d'urgence particulièrement sous le, par exemple, le plan froid, etc. Après, il y a plein d'innovations, comme vous le disiez tout à l'heure, et plein de choses qui se développent avec des services d'accompagnement qui peuvent être très intéressants. Mais quand on regarde partout en Europe, il reste des structures où on est sur des dortoirs, pas de vie privée, très peu de d'aménités de base pour pouvoir donc c'est très compliqué.
Et puis un des arguments des SDF face à la difficulté de s'en sortir, c'est cette lourdeur administrative qu'ils décrivent, des démarches à effectuer pour rentrer dans le système, et l'absence d'un seul et même référent pour les accompagner dans ces démarches. Édouard Gardella, qu'est-ce que vous pensez de ce reproche-là?
Ouais, certains experts, en fait, insistent beaucoup sur le manque de rationalité, soi-disant, des aides qui sont distribuées. Il faudrait avoir un référent unique. Ça se discute aussi parce que effectivement, s'il y a un référent unique pose problème à la personne, en fait, il faut passer le relais, et donc les professionnels aussi ont une critique par rapport à ces propositions faites par des experts. C'est l'idée que l'idée aussi qu'il y a plusieurs professionnels, ils peuvent se compléter, ils peuvent aussi approcher la personne de différentes manières. Donc, je pense qu'il faut ce type de proposition paraît frapper du coin du bon sens. Mais c'est à discuter, je pense.
Qu'est-ce que vous en pensez, Chloé Sermorin?
Oui, alors, c'est surtout, je pense aussi, pour revenir un peu à la question des centres d'hébergement, il y a aussi toute une question. Donc cette histoire de l'accompagnement, c'est une chose. Je pense que aussi il y a la question de l'adéquation avec les besoins des personnes. Donc l'accompagnement, mais aussi la structure. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de plus en plus de personnes qui sont familles sans abri, qui sont enfants sans abri, qui peuvent avoir des profils particuliers comme ça. La solution qu'on donne, ça peut être des chambres en hôtel, etc., puisque les hébergements d'urgence sont saturés. Mais les structures ne sont pas adéquates.
Bien, on en saura en tout cas un peu plus sur le nombre des SDF à Paris, ce sera jeudi. Merci à tous les deux d'avoir éclairé la question. Merci. Chloé Sermorin, donc je rappelle le titre de l'ouvrage sur lequel vous travaillez, Le regard sur le mal logement en Europe, publié chaque année en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre. Édouard Gardella, sociologue et chargé de recherche au CNRS. Merci également à l'équipe du débat, Déborah Lepage pour la préparation de cette émission, Claude Battista pour sa réalisation et Simon Carteret à la documentation. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous restez à l'écoute. Un nouveau jour.